Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Stéphane Carpentier. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Bienvenue à bord de RTL Soir pour un voyage de 2 heures au cœur de l'info. 120 minutes en direct pour tout savoir de l'actualité. Savoir et comprendre, à commencer par la traque hors norme menée depuis mardi dans les Cévennes pour localiser le fuyard le plus recherché du pays. Valentin Marcon a tué son patron et un collègue d'une scierie où il travaillait. Et depuis, il s'est volatilisé. Il est armé, déterminé, apte à la survie en milieu hostile. 350 gendarmes sont déployés dans les forêts du massif, aidés de drones, d'hélicoptères, de caméras thermiques et de chiens. Et pour l'instant, pas de traces du forcené, pas de mouvement, pas de campement ou de feu repéré. L'individu est tout simplement introuvable. Le général de gendarmerie Letterman orchestre l'opération XXL sur terre et dans les airs. Il nous donnera les derniers éléments. Il sera notre invité tout à l'heure à 18h15. Soyez tous les bienvenus. RTL Soir démarre avec le journal et les grands titres. Agnès Bonfillon, bonsoir.
Bonsoir Stéphane, bonsoir. Bonsoir à tous. 10 jours après le meurtre d'Éric Masson, un nouveau policier pris pour cible dans la Loire cette fois. Il se trouve dans le coma. Son pronostic vital est engagé. Ce n'est pas encore fini. Benjamin Netanyahou prévient, l'armée israélienne va encore intensifier ses frappes sur la bande de Gaza. Pendant ce temps, la manifestation en soutien au peuple palestinien est interdite demain à Paris. La possibilité de voyager en Grèce. Le pays accueille à nouveau les touristes depuis ce matin. Vous allez me dire, pas besoin d'aller si loin. Chez nous, en ce week-end de l'Ascension, les hôtels et les gîtes sont pris d'assaut.
Vos incontournables d'ici 20h dans RTL Soir, la liberté de parole d'Éric Brunet, c'est 18h50 avec ses temps forts de la semaine et on défait le monde, c'est vendredi 19h15 avec Cini et compagnie. En attendant le ciel, la météo capricieuse, bonsoir Claire Delorme.
Bonsoir Stéphane.
Et vive le parapluie.
Ah oui, c'est un euphémisme car en effet à partir de ce soir, une nouvelle perturbation va concerner la Bretagne et en matinée, on va la retrouver donc du sud-ouest au nord-est avec des pluies beaucoup plus soutenues en Aquitaine, beaucoup plus faible ailleurs et dans l'après-midi. Ça sera surtout une traîne qui va s'installer de la Bretagne vers le bassin parisien remontant vers le nord du pays avec des averses, des éclaircies, des passages nuageux. Moralité, un ciel beaucoup plus calme en Méditerranée avec des températures jusqu'à 11 degrés en matinée en général et dans l'après-midi de maximale qui iront entre 13 à 18 degrés.
Merci Claire.
RTL Soir.
Direction Rive-de-Gier dans la Loire. Le pronostic vital du policier blessé cette nuit est toujours engagé. Le fonctionnaire a été visé à la tête par un projectile. Et encore une fois, Guillaume Chies, tout a débuté lors d'une intervention plutôt banale.
Oui, puisque les trois fonctionnaires étaient appelés pour un tapage nocturne. Une fois sur place, ils font face à un groupe d'une quinzaine de jeunes alcoolisés. Le ton monte. Le groupe s'arme de bouteilles en verre et de parpaings, les jette sur les forces de l'ordre. Le fonctionnaire de 50 ans est touché au niveau de la tempe par un projectile qui n'a pas encore été déterminé, mais le choc est si violent que le policier s'effondre au sol, il est inconscient, les renforts arrivent et les jeunes se dispersent, aucune interpellation pour les retrouver, l'enquête démarre, il faut désormais analyser tous les objets ramassés au sol, les enquêteurs misent aussi sur la collaboration de potentiels témoins, André Merle est le procureur adjoint de Saint-Étienne.
On a mis en œuvre tout le travail de recherche de preuves. Nous allons voir si nous pouvons disposer d'images, de vidéos. Et puis, si jamais effectivement des personnes disposent de renseignements, elles savent qu'elles peuvent s'adresser au service et que nous saurons les utiliser avec les moyens qui sont à notre disposition, y compris sur la protection des témoins.
Le policier lui a été opéré cette nuit, mais a connu des complications en fin de matinée. Il est toujours plongé dans un coma artificiel.
Merci Guillaume Chies du service police-justice de RTL.
Dans les Cévennes, cela fait donc 3 jours maintenant que Valentin Marcon reste introuvable.
Après avoir abattu son patron ainsi que l'un de ses collègues, il s'est comme volatilisé, malgré les importants moyens de recherche déployés, toujours rien. Le message enregistré par le père du suspect l'appelant à se rendre n'a eu aucun effet non plus. Dès le départ, l'homme de 29 ans a été présenté comme dangereux. Il est armé, il fait du tir sportif. Il n'avait pas l'habitude de chasser, mais cela n'empêche pas Claude Legrand, président des chasseurs des plantiers, de bien connaître le profil du fugitif.
C'était quelqu'un de très solitaire et de très, très particulier. Quelqu'un qui avait toujours sur lui une petite caméra ou une dictaphone. Il enregistrait tout, il filmait. J'espère me tromper, mais c'est un gars qui a prémédité ce coup et qui a préparé son coup depuis peut-être plusieurs années. C'est un gars qui se sentait persécuté, il n'a pas été pris à la gendarmerie ou dans la police ou dans l'armée. Maintenant, il veut faire voir, il veut jouer à Rambo, il veut faire voir qu'ils ne l'ont pas pris, ils ont loupé un bon élément peut-être, mais qui peut être très dangereux. Parce qu'il tire très bien malheureusement en tir sportif. Il ne rate pas ses cibles.
Des propos recueillis par Hugo Hamelin à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Une enquête administrative est ouverte. Une petite fille de 5 ans, scolarisée à l'école maternelle Les Martinets, s'est assise sur une chaise et a été grièvement brûlée par un produit désinfectant. Elle a dû subir une grève de peau. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 19h. Ils payent et vont continuer à payer. Ce n'est pas fini. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, prévient le Hamas. Les frappes sur la bande de Gaza vont s'intensifier. Elles ont déjà fait plus de 100 morts en quelques jours. Côté israélien, 9 personnes ont été tuées par des roquettes. À Paris, à moins que le tribunal administratif ne rende une autre décision au dernier moment, la manifestation de soutien au peuple palestinien est interdite demain. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, soutient d'ailleurs cette sage décision, ce sont ses mots. Alors ça c'est pour Paris, ailleurs Alice Moreno, les préfets tentent d'anticiper. Et attention, anticiper ne veut pas dire interdire.
Absolument, c'est le cas à Marseille par exemple, il y a bien un rassemblement statique prévu demain, ça les autorités n'y ont pas touché. En revanche, une autre manifestation devait se tenir dimanche à l'appel de la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Et la déambulation a été interdite. Le parcours extrêmement long passait à proximité de synagogues. La préfète veut éviter tout débordement autour des lieux de culte. À titre de compromis, c'est finalement un rassemblement statique qui se tiendra là encore. A l'inverse, les manifestations sont toujours autorisées dans des grandes villes comme à Lyon ou à Bordeaux. Les services de renseignement sont mobilisés pour appréhender les risques partout sur le territoire et permettre la mise en place de dispositif de maintien de l'ordre adéquat. La situation à Paris est en suspens, vous l'avez dit Agnès, cela dépend de la décision du tribunal administratif. Les juges vont évaluer le risque réel de trouble à l'ordre public et rendront leur décision demain matin.
Les précisions d'Alice Moreno. Merci Alice. Emmanuel Macron insiste sur l'urgence d'un retour à la paix au Proche-Orient. Lors d'un entretien avec Benjamin Netanyahou justement, il a souligné le droit à se défendre d'Israël tout en disant sa préoccupation au sujet des populations civiles à Gaza. Le président de la République qui passe le week-end dans le Var au fort de Brégançon. Ce soir, il tiendra une visioconférence contre les contenus terroristes et extrémistes en ligne.
La suite de RTL Soir à 18h07 avec Agnès Bonfillon et la politique. Il rêvait sûrement d'une entrée en campagne pour les régionales un peu plus sereine, Renaud Muselier.
Le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur vient de dévoiler à Marseille sa liste, incluant, et c'est là que le bât blesse avec son parti, incluant des membres de la République en marche. Dans son camp, beaucoup demandent à ce que l'investiture lui soit retirée. Ce que la tête de liste ne goûte guère, pour lui, ce n'est ni plus ni moins faire le jeu du Front National.
Ceux qui se compromettent aujourd'hui en appelant à ne pas voter pour moi sont des irresponsables et nous soutiennent de fait le seul traître de cette élection, Thierry Mariani. Et je leur pose la question, vont-ils demander l'exclusion de Laurent Wauquiez qui a des élus de la majorité présidentielle dans sa propre majorité, dont des parlementaires? Vont-ils arrêter de soutenir Valérie Pécresse, qui a annoncé hier qu'elle associait des élus qui ont soutenu La République En Marche? Ils remettent en cause la ligne rouge héritée de la fondation du RPR, de l'UMP et des Républicains. Pas de compromission avec l'extrême droite et avec le Front National. Ma famille politique doit régler ce débat qui la ronge, plutôt que de m'envoyer des fatwas par communiqué de presse.
Renaud Muselier, cet après-midi à Marseille, des propos recueillis par Étienne Baudu. Les chefs de file pour les régionales ont jusqu'à lundi midi pour déposer leur liste en vue du scrutin des 20 et 27 juin.
Une pause à présent dans RTL Soir à 18h08, le temps de préparer votre passeport ou faire comme si. Juste après la pub, direction la Grèce qui rouvre ses portes aux touristes. A tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et à 18h10, ce vendredi, la suite du journal avec Agnès Bonfillon.
Danser le Sirtaki, quel bonheur, votre passion Stéphane. Ça y est, depuis ce matin, les frontières grecques sont à nouveau ouvertes pour les touristes. Il suffit pour entrer dans le pays de présenter un certificat de vaccination ou un test PCR négatif. Alors peut-on parler de retour à la vie d'avant? Oui et non, Alexia Kefalas.
Oui, dans les rues de Plaka, près de l'Acropole, sous les bougainvilliers en fleurs, la vie reprend enfin après de longs mois. Les premiers touristes s'y baladent déjà, mais les commerçants comme Stelios, marchand de sandales spartiates en cuir, a du mal à croire à une réelle reprise après cet hiver inédit.
N'oubliez pas que nous sortions de 10 années de crise économique sévère quand la pandémie a frappé. Maintenant, je ne sais pas si je tiendrai, mais je vais essayer.
La vie reprend aussi sur le rocher de l'Acropole, mais pour le moment, simplement, seuls quelques touristes, comme John Persanda, un Français venu passer le week-end en famille, viennent découvrir ou redécouvrir le Parthénon.
Bah, en général, quand je viens ici, quand je suis venu, ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici, quand je viens ici, c'est bourré de monde. Et là, c'est quand même extraordinaire. C'est un peu triste, je dirais, pour le tourisme, c'est extraordinaire de pouvoir le voir avec peu de monde.
Si les sourires ne se voient pas sous les masques, on distingue tout de même un véritable enthousiasme chez les Grecs qui espèrent sauver la saison estivale pour éviter de retomber dans un long marasme économique.
Alexia Kefalas, la correspondante de RTL à Athènes. Sachez que le Portugal ouvre aussi un peu plus ses portes. Les Britanniques peuvent à nouveau s'y rendre, ce qui tombe plutôt bien pour le 29 mai prochain, jour de finale de Ligue des Champions à Porto. La France, elle, allonge la liste des pays dont la provenance entraîne une quarantaine obligatoire. Seront aussi concernés à partir de dimanche à la Colombie, l'Uruguay, le Costa Rica, mais aussi Bahreïn.
En France, de toutes les façons, le retour des touristes, c'est pas pour tout de suite, Agnès, mais dans 5 jours, nouvelle étape.
Hein. Oui, la fameuse réouverture des terrasses, imaginez-vous attablé mercredi prochain. Alors d'accord, encore faut-il avoir de la place, mais c'est un autre sujet. Il y a les terrasses, mais aussi les cinémas, les commerces. Vous le savez, RTL vous fait vivre ces préparatifs. Et justement, ce soir, nous partons au centre commercial Le B2 à Collégien, en Seine-et-Marne. 110 magasins, 21 000 mètres carrés et un protocole qui sera encore de rigueur, Sébastien Rouxel.
1486 personnes maximum. La petite affiche à l'entrée du bâtiment va changer d'ici mercredi. En attendant, les yeux rivés sur son téléphone, le directeur du centre, Simon Fourreau, reste vigilant.
C'est une petite application, voilà. Et je peux vous dire, voilà, à l'heure actuelle, il y a 527 présents dans le centre commercial. Et on en a encore 959 qui peuvent encore entrer, puisqu'il y a uniquement l'hypermarché Carrefour qui est ouvert. Dès lors qu'on arrive à 90% de la jauge, on commence à filtrer.
Devant les rideaux baissés des magasins, les marquages au sol sont toujours là, les distributeurs de gel aussi. Tout est prêt depuis longtemps pour accueillir les clients.
On est aussi rodé à l'exercice depuis un an, donc il n'y a pas d'appréhension à avoir pour le client. Le message, c'est en effet, venez à B2 faire votre shopping en toute sécurité.
Côté commerçant, là aussi, on est rodé, enfin presque tous. Paul ouvrira sa boutique mercredi pour la première fois. Il y aura forcément le jour même quelques ajustements.
Par exemple, si j'ai 10 personnes qui sont autorisées et que je vois que c'est trop regroupé dans un coin, je vais quand même bloquer. Donc à ce moment-là, nous on a un système de filtre, on met une personne du coin d'entrée, elle se mettra en filtre et elle fera rentrer au fur et à mesure les personnes.
Tout faire pour respecter les gestes sanitaires et éviter à tout prix une fermeture.
Le reportage de Sébastien Rouxel pour RTL.
Les professionnels du tourisme, Agnès, qui voyaient ce pont de l'Ascension comme un vrai test.
Eh bien, c'est plutôt réussi. Exemple, sur la Côte d'Opale, c'est un carton plein pour les hôtels, mais aussi pour les gîtes. Dans le Pas-de-Calais, ça monte jusqu'à 95% d'occupation. C'est 5 points de plus que pour un week-end de l'Ascension habituel, Antoine Decarne.
Bonjour, messieurs, dames.
Toute la famille Panier est bien arrivée, peut sortir les valises.
Alors le gîte est là, je vais juste vous montrer quelque chose derrière.
Et direction l'état des lieux.
Allez-y, allez-y, rentrez. Donc ici, on a donc l'espace cuisine.
La location est spacieuse, elle pourra accueillir les 8 vacanciers venus se ressourcer.
Alors, mes parents, mon frère, les conjoints et conjointes et les petits-enfants.
Grégoire et sa compagne Lucille arrivent des Ardennes.
C'est 3 heures de route de chez nous. Peut-être prendre vraiment le temps d'être ensemble. En bien grand-parents avec les petits-enfants, c'est génial.
Sauf que nous, on vit en appart. On vient de faire un an confinement en ville. Alors, on va pouvoir se détendre au vert. C'est génial.
Car le gîte est à la campagne, à l'intérieur des terres, mais à 15 minutes des plages de la Côte d'Opale, et Pauline veut en profiter.
Les balades, je pense. Un petit peu de running pour nous. Même s'il pleut, de toute façon, on sortira.
La propriétaire Mireille Lebeur dispose ici de 2 gîtes et tout est parti très rapidement pour ce week-end.
De l'annonce de M. Castex, le lendemain, on a bien eu 50 demandes pour ce week-end.
Sur la Côte d'Opale, 98% des gîtes de France ont été réservés du jamais vu, avec une clientèle française et citadine qui cherche à profiter de cette liberté retrouvée.
Le reportage d'Antoine Decarne sur la Côte d'Opale. 2 infos sportives pour terminer. La suspension de Neymar pour la finale de la Coupe de France. A priori, la superstar du PSG qui a reçu un avertissement avant-hier à Montpellier. Cela entraîne de facto la révocation d'un sursis écopé, souvenez-vous, au mois d'avril, contre Lille. Il avait pris un carton rouge. En cyclisme, pas de Jeux Olympiques de Tokyo pour Julian Alaphilippe. Et c'est un choix personnel, mûrement réfléchi, a-t-il expliqué. Le champion du monde en titre s'apprête à accueillir son premier enfant en juin, ce qui ne l'empêchera pas d'être au rendez-vous, dit-il, pour le Tour de France.
Et le football, on en reparle dès 20h sur RTL, RTL Foot, 20h, 22h ce soir, avec au menu Neymar, la Coupe de France, et bien sûr, le suspense encore et toujours en Ligue 1. La bonne nouvelle du soir, c'est qu'Agnès Bonfillon revient vous informer confirmée tout à l'heure à 18h30. L'appli RTL pour tout savoir sur l'actualité de ce vendredi. Vous restez bien là dans un instant. Nous allons vous donner les tout derniers éléments sur la traque de cette semaine dans les Cévennes. Traque hors norme pour tenter de localiser le tueur Valentin Marcon. Le général Letterman, général de gendarmerie, orchestre actuellement les recherches. Il y a 350 hommes déployés et des moyens matériels bien sûr considérables. Tous les détails, c'est avec le général Letterman juste après ceci.
RTL Soir. RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
18h18, soyez les bienvenus. L'invité de RTL Soir est donc général de gendarmerie en ligne avec nous depuis les Cévennes où a lieu une traque hors norme pour tenter de localiser Valentin Marcon qui s'est volatilisé depuis mardi après avoir abattu le patron et un employé de la scierie où il travaillait. On est connecté avec les Cévennes et donc avec le général Jean-Valéry Letterman. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Je parlais il y a un instant d'une traque hors norme, ce dispositif déployé sur zone. Il est considérable à la fois sur terre et dans les airs.
Oui, absolument. C'est un dispositif qui rassemble, au moment où je vous parle, plus de 350 militaires. Et vous avez raison de dire sur terre et en l'air. Mais surtout, au-delà des effectifs, c'est également un rassemblement d'expertise et de compétences, puisqu'on a décidé de faire affluer ici toutes sortes de technicité, d'expertise de la gendarmerie pour parvenir à retrouver le fugitif.
C'est un dispositif qui s'est étoffé ces dernières heures.
Oui, absolument. Au fur et à mesure des journées, comme je vous l'ai dit, nous avons fait venir plus de monde, mais aussi plus de compétences. À titre d'exemple, aujourd'hui, nous avons 3 escadrons de gendarmerie mobile qui sont engagés. Nous avons fait venir aussi une capacité de commandement pour ces 3 escadrons. Autre exemple, c'est cet après-midi, 3 équipes cynophiles de Saint-Hubert qui sont à pied d'œuvre. Vous savez, ce sont ces chiens qui, non seulement ont un odorat très développé, mais qui surtout ont cette capacité à travailler plusieurs jours après le passage d'un fugitif sur des traces froides. Mmh.
Vous nous parlez justement du matériel, des chiens aussi, mon général, mais les hommes, est-ce qu'ils sont aptes, c'est-à-dire qu'ils ont été formés à ce type d'intervention ?
Eh bien, bien entendu, les personnes qu'on fait venir ici sont tous formés pour les missions qui sont les leurs. Les gendarmes mobiles qui sont à la fois en bouclage et en ratissage, les gendarmes départementaux qui sont en bouclage également et en protection de la population, parce que c'est une de nos missions ici évidemment essentielle de protéger les habitants de ce secteur. Le GIGN qui accompagne les équipes cynophiles pour à la fois pour les protéger et en cas de contact. Nos pilotes d'hélico, nos négociateurs, donc tous les gens qui viennent ici sont des experts qui ont des compétences particulières pour lesquelles ils ont été formés.
Alors c'est considérable en termes de moyens, évidemment. Malgré tout cela, pour l'instant, aucune trace, aucun signe de mouvement.
Des informations ou des témoignages que nous sommes allés vérifier, ce qu'on appelle des levées de doute. Donc ça peut être des éclats de lumière, ça peut être des bruits qu'on aurait pu assimiler à des donations, ça peut être des habitants qui nous signalent avoir vu quelqu'un. Donc tout ça, on le vérifie. Pour l'instant, rien de probant. Mais ces vérifications, les unes après les autres, associées au travail de ratissage et de vérification de tout ce qui existe comme abri, comme cache, comme grotte, comme mazet, fait que au fur et à mesure, nous avons une connaissance très fine de ce territoire qui fait que nous mettons vraiment tous les moyens pour retrouver l'auteur présumé.
On imagine tout cela ressemble, mon général, à une espèce de puzzle, c'est-à-dire que c'est pièce par pièce que vous avancez.
Absolument, c'est un travail très méticuleux, très méthodique, très organisé, mais aussi très déterminé. Voilà, alors ça prend du temps, on ne le comprend pas forcément quand on est loin de ce terrain, mais ce terrain est extrêmement complexe, il est très abrupt, il est très encaissé, il est couvert densément d'une forêt très particulière. C'est un travail que nous faisons de manière méthodique. Et puis, nous n'ignorons pas que nous avons en face de nous quelqu'un qui est sûrement armé, qui est dangereux, qui est l'auteur présumé d'un double homicide. Et donc ça fait que nos progressions, nos vérifications se font aussi sous le signe de notre propre protection, ce qui évidemment rend les recherches un peu moins rapides.
Oui, c'est un point important, mon général. C'est un solitaire, très habile avec les armes. On l'apprend depuis maintenant quelques jours. Il est armé d'un fusil permettant de tirer à longue distance. Est-ce que vos hommes, vos équipes sont prévenus ? Est-ce que ça freine les recherches ? Est-ce qu'il y a derrière ça de l'inquiétude ?
Alors évidemment que nos personnels sont prévenus et évidemment que leur sécurité est également notre priorité. Et bien sûr, c'est un facteur de ralentissement des recherches parce qu'il faut qu'on fasse ça vraiment, comme je vous l'ai dit, sous le signe de la protection, sous le signe de la sécurité.
Parce qu'on imagine qu'il n'hésitera pas à cibler les forces de l'ordre, les militaires, à tirer en tous les cas, hein.
Ça, c'est une hypothèse hein, qui n'est évidemment pas confirmée. Nous travaillons sur différentes hypothèses de comportement de notre fugitif, allant de la fuite au fait de se cacher en attendant qu'on s'en aille. Le fait d'engager les gendarmes qui arriveraient est une option. Elle n'est pas évidemment pas certaine.
Le procureur de la République l'a décrit comme un homme apte à la survie en milieu hostile. Vous allez nous le confirmer, mon général. L'objectif, c'est quoi? C'est de l'user, de prendre son temps pour qu'il commette éventuellement une faute?
Le procureur de la République, évidemment, qui dirige l'enquête et qui est celui qui connaît le mieux le profil psychologique de l'intéressé, l'a effectivement décrit comme quelqu'un qui est habitué ici à la vie dans la montagne, à la vie dans la forêt. Quelqu'un qui, d'après les éléments qu'on a, est plutôt solitaire et nous pensons qu'il est capable de tenir plusieurs jours. De notre côté, encore une fois, par cette recherche minutieuse, nous espérons réussir à le débusquer ou, comme vous l'avez dit, par les moyens qu'on met en place, c'est-à-dire les hélicoptères, les chiens, les personnes qui ratissent, à le mettre sous pression, à le faire se manifester pour pouvoir l'interpeller.
Est-ce que vous pouvez imaginer ce soir qu'il soit sorti du secteur que vous ratissez?
C'est une option, évidemment. Nous envisageons toutes les options et c'est pour ça que nous avons une hypothèse de travail privilégiée. C'est celle qui est encore là. C'est pour ça que nous concentrons actuellement notre effort ici et maintenant. Mais nous n'excluons aucune possibilité. Nous travaillons aussi sur le temps plus long avec d'autres hypothèses et notamment, comme je vous le disais un instant, avec tout le travail judiciaire sous la direction de Monsieur le procureur de la République de Nîmes.
Je disais tout à l'heure, pas de traces, mon général, c'est-à-dire pas de traces de feu ou de campement, rien de repéré pour l'instant. On se demande de loin, nous, comment il mange, comment il tient la nuit, s'il n'y a pas de feu, par exemple.
Écoutez, on n'a pas détecté effectivement de traces de feu, comme vous dites. Quelqu'un d'organisé qui aurait préparé une planque plusieurs jours dans la forêt est capable d'avoir anticipé, d'avoir mis de côté un certain nombre de choses pour tenir. Voilà, c'est également une option.
Pour le voir éventuellement bouger, pour qu'il y ait des mouvements, vous servez de quoi? De drone, de caméra thermique, c'est ça?
On a au sol des équipes de ratissage et, comme je vous le disais, des équipes cynophiles. Nous avons en l'air effectivement une capacité aéro avec des drones, mais surtout avec des hélicoptères qui sont capables, avec les caméras de jour, mais aussi avec les moyens thermiques de nuit, de détecter des mouvements ou des présences. Voilà. Et nous allons vérifier à chaque fois.
J'ai deux ultimes questions, mon général, et je vous libère dans la foulée, bien évidemment. D'abord, concernant les habitants du secteur, des villages qui sont là, ils sont quelques centaines. Est-ce qu'ils sont inquiets? Quelles sont les recommandations que vous leur passez?
Alors, les habitants qui sont effectivement dans le secteur travaillent avec nous. Notre responsabilité est de les protéger. Donc nous leur donnons un certain nombre effectivement de conseils. Et,
de rester chez eux, évidemment.
De rester chez eux autant que possible et puis de nous donner aussi toutes les informations qu'ils pourraient avoir.
Il y a un appel à témoins qui a été lancé, vaste appel justement. Oui. Est-ce qu'il y a eu des retours déjà, des indications? Qu'est-ce que ça donne?
On a un certain nombre d'appels effectivement qui sont arrivés et comme toujours en pareil cas, on a des choses un peu différentes. On a des gens qui nous proposent leur aide, on a des appels qui viennent de très très loin et puis on a quelques appels ou quelques témoignages plus intéressants que nous exploitons chaque fois qu'ils arrivent.
Merci mon général d'avoir été dans
RTL
ce soir. Jean-Valéry Letterman, donc général qui orchestre tout cela depuis les Cévennes sur cette traque gigantesque. Merci mon général.
Bonsoir, merci.
18h26, les principaux héritages, ou en tous les cas, ce qu'il faut retenir de cet entretien, vous retrouvez tout ça sur les réseaux sociaux, je vais trouver mon mot, et sur l'appli RTL, vous n'hésitez pas. Il est 18h26, vous restez bien. Là, l'essentiel de l'actualité, c'est Agnès Bonfillon dans un instant, et puis Claire Delorme va tout nous dire sur la météo de ce week-end et autant vous prévenir, c'est pas terrible.
RTL Soir.
18h28.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et ce qu'il faut savoir de l'actualité de ce vendredi soir avec Agnès Bonfillon.
Un policier toujours entre la vie et la mort après avoir été visé à la tête par un projectile la nuit dernière. Le fonctionnaire de 51 ans intervenait à Rive-de-Gier dans la Loire pour une affaire de tapage nocturne et tir de feu d'artifice. Une quinzaine de jeunes attendaient la brigade de pied ferme. Les auteurs des faits n'ont pas encore été identifiés. Dans les Cévennes, cette fois, 72 heures de cavale et toujours aucune trace de l'homme qui a abattu son patron ainsi que l'un de ses collègues. Lourdement armé, il est habitué aux tirs sportifs et aux pratiques survivalistes. Demain à Paris, la manifestation de soutien au peuple palestinien est interdite. À Marseille, pas de cortège. En revanche, le préfet autorise un rassemblement. Concernant les frappes sur Gaza, ce n'est pas encore fini, prévient le Premier ministre Benjamin Netanyahou. En cyclisme, c'est déjà une certitude. Julian Alaphilippe ne sera pas champion olympique cet été. Pour cause, il ne participera pas aux JO de Tokyo. Il a fait des choix, il a d'autres priorités dont la plus belle doit pointer le bout de son nez en juin. Ça n'empêchera pas l'actuel champion du monde d'être sur le Tour de France. En football, Neymar suspendu pour la finale de la Coupe de France contre Monaco mercredi. Un espoir néanmoins, le club parisien peut demander une conciliation, sachant que cette démarche peut-être suspensive.
Affaire à suivre. Merci beaucoup Agnès Bonfillon et toute l'actualité. Vous allez directement sur l'appli RTL à 18h30. C'est Météoscope. C'est le temps du week-end avec Claire Delorme. Alors d'abord, demain, ce sera humide.
Oui, pas folichon. Hein. Temps très gris. Vraiment rester sous la couette hein, pour clôturer ce week-end de l'Ascension. Donc dans le détail, on a dans la nuit une perturbation qui va arriver par la Bretagne et qui va donc dans la matinée de demain circuler donc du sud-ouest en remontant vers le nord-est avec des pluies qui seront localement plus soutenues vers la Nouvelle-Aquitaine, le Massif central, les Alpes, beaucoup plus faible ailleurs. Et puis donc dans l'après-midi, cette perturbation va très peu évoluer. Elle va rester principalement vers ces régions. Par contre, à l'arrière de la Bretagne, le centre-Val de Loire, bassin parisien, Hauts-de-France, eh bien on aura un peu de tout. Hein, ciel hésitant, partage entre éclaircies, de nombreux passages nuageux, porteurs d'averses avec même localement quelques coups de tonnerre. Donc pour certains, ce sera la totale. Et donc pour tout simplement retrouver des conditions un peu plus calmes, un petit peu plus lumineuses, il faudra vous rendre tout simplement en Méditerranée où les conditions seront les plus clémentes, mais aussi avec du vent qui va souffler encore très fort, jusqu'à 80-90 km/h. Côté température, encore largement en dessous des normales de saison. Il faut vraiment s'armer de patience, hein, car pour les minimales, ça sera entre 5 et 11 degrés en général, avec 8 degrés à Paris. Et pour les maximales, dans l'après-midi, ça ne décolle pas. Hein. Pas plus de 18 à 23 degrés dans le sud-est, 19 à 21 degrés près des Pyrénées et 13 à 18 degrés ailleurs.
Voilà, rien de terrible pour ce samedi. Et après, c'est copier-coller, Claire.
Exactement. On prend les mêmes et on recommence. Encore beaucoup d'humidité hein, sur l'ensemble du pays, avec surtout la pluie qui va rester cantonnée vers le sud-ouest dans la journée de dimanche. Sinon, principalement pour la moitié nord, ça sera encore un régime d'averse, donc des giboulées ponctuées de coups de tonnerre, quelques éclaircies quand même pour les plus chanceux. Moralité, même chose aussi pour lundi, donc pour des conditions beaucoup plus calmes, et bien tout simplement rendez-vous en Méditerranée, c'est ma conclusion Stéphane.
Je m'attendais à un rendez-vous au mois de juin. Peut-être.
Oui, aussi au mois de juin.
Merci Météoscope dans RTL Soir avec Claire Delorme. Ça a plombé le moral de Cyprien Sinistre ce soir.
C'est sympa tout ça. Moi, je me régale. Hein.
On défait le monde en approche, c'est 19h15 avec Cyprien et toute son équipe qui prennent les commandes jusqu'à 20h pour une actualité détendue. Cyprien, on va apprendre encore et toujours.
Oui, ce soir, on va vous parler de l'armée française. Suite aux deux tribunes parues récemment dans la presse, on a entendu beaucoup de choses sur ce que devait, pourrait faire l'armée. Eh bien, en écoutant On défait le monde, vous comprendrez exactement et clairement, quel est le rôle de l'armée sur le territoire national. Vous découvrirez aussi que les consultations chez les chirurgiens esthétiques ont bondi en flèche en 2020, une augmentation de 20 à 30%. Du coup, on allumera la lumière et on expliquera ce phénomène inattendu. Dans On défait le monde, vous aurez aussi François Bayrou et Bob Marley. On vous parlera du footballeur André-Pierre Gignac et on vous offrira un très très beau cadeau. Un séjour pour deux, dans un 4 étoiles, en Normandie. Ça risque d'être sous la pluie, mais bon, en Normandie quand même. C'est formidable comme région. Il est pas beau le déconfinement et qu'on défait le monde. Alors rendez-vous à 19h15 pour de l'info sérieuse, mais sans se prendre au sérieux.
À tout à l'heure Cyprien, avec tous les autres bien sûr. 19h15, 20h comme tous les vendredis soirs. Dans un instant, le cinéma. Car oui, les salles obscures retrouvent les spectateurs mercredi prochain. Les spectateurs et les films de retour, dont L'Étreinte avec Emmanuel Béart, la comédienne très théâtre ces dernières années, qui se retrouve devant les caméras avec bonheur. L'Étreinte, c'est l'histoire d'une femme qui cherche à se reconstruire. Emmanuel Béart nous rejoint en direct dans un instant en studio pour la suite de RTL Soir. A tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Vous reprenez vos études ?
Oui.
Ah, tu parles d'une question ?
Ouais.
Et vous venez à la fête demain soir ou pas ?
Quelle fête ?
Prenez mon numéro, je passerai vous chercher.
Il a peur de rien.
Un peu bordeur.
vous avez habité où ça avant d'aménager ?
À Nice. C'est mon mari qui était commissaire d'exposition là-bas.
Il est où maintenant ?
Il est nulle part. Il est mort.
Il y a très longtemps qu'on n'avait pas diffusé une bande-annonce de film, une bande-annonce dans RTL Soir avant la sortie d'un long métrage. Longtemps qu'une grande actrice n'est pas venue faire la promo de son film justement, mais le cinéma est de retour, les films, les spectateurs, dès mercredi prochain. Et c'est peu dire que nous sommes impatients. Bonsoir à vous Emmanuel Béard.
Bonsoir.
Merci d'être là en direct à l'occasion de votre rôle dans L'Étreinte, le premier film de Ludovic Bergeri. Enfin dans les salles, hein, ce mercredi 19 mai.
Oui, c'est enfin. Je crois la troisième tentative de sortie, mais c'est la bonne. Oui.
Est-ce que vous le savourez ce moment qui approche là.
Ah oui, c'est jouissif. Et puis pas seulement que le film L'Étreinte sorte, mais de pouvoir effectivement aussi, moi, retourner au cinéma, aller voir des films. Et puis on a, oui, la culture a quand même souffert de cette absence et absence de considération aussi. On a eu l'impression quand même que c'était pas tout à fait juste de nous tenir éloignés. Mmh.
Ça, voilà. Ça vous a mis en colère parfois ou pas ?
Oui, il m'est arrivé. Bah, oui, au moment où, par exemple, ils ont rouvert les lieux de culte, je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison pour qu'on ne rouvre pas les cinémas et les théâtres. Et aujourd'hui, ça crée quand même un sacré embouteillage. Il y a plus de 400 films qui doivent sortir. Il y a des pièces, moi, je devais retourner au théâtre. La pièce est déprogrammée, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra la reprendre. Enfin voilà, donc ça a créé puis une absence, moi, en tant que femme, en tant que citoyenne, j'avais besoin de culture. Et j'imagine que les autres aussi, la culture fait partie intégrante de notre... voilà, on a besoin de rêver, on a besoin de lire, on a besoin d'aller au cinéma. Donc il y a toute une dynamique qui m'a férocement manquer et qui a, je pense, manqué aujourd'hui.
Non, mais ça a paru interminable.
Oui, mais tout a paru interminable.
Vous l'avez vécu facilement, difficilement, cette période-là ? À la fois en tant qu'actrice professionnelle et même en tant que personne.
Femme, ouais. En tant que personne. Ben moi, je l'ai vécu... j'ai traversé ça avec plus ou moins de facilité, mais j'étais très concernée par tous ceux, par le fait que le Covid aggrave les inégalités, que dans le fond, les gens les plus précaires souffraient énormément de ce qui était en train d'arriver. Voilà, donc je n'ai pas très envie de parler de mon confort personnel, mais plutôt de tous les gens dont ça a vraiment entamé les possibilités, le travail, la santé. Voilà, ça n'a fait que creuser les inégalités, ce Covid.
On essaie d'être un peu positif. Il y a pas mal de gens qui disent quand même, malgré tout, cette période là qui a été vraiment hors norme, particulière, qu'on n'a jamais connue, en tous les cas ces dernières décennies, elle va rapprocher les gens, qu'il va y avoir de la solidarité. Vous y croyez-vous ou alors ça va être plus de la rupture ?
Non, mais alors pour être positif, je crois quand même que cette étrange arrêt de tout, de l'économie, de la vie sociale, des corps les uns contre les autres, il y a quelque chose peut-être qui a amené une sorte de corps à corps avec soi-même et de réflexion personnelle sur, effectivement, la mort était très 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 présente, donc il fallait essayer d'être vivant pour la contrer. Je pense quand même, j'ai lu beaucoup Edgar Morin moi pendant le premier confinement et ça me donnait envie de continuer, puis ça m'a donné envie d'aider, ça a provoqué d'autres choses, chez moi en tout cas et chez les autres aussi certainement, une conscience de la nature aussi certainement, un besoin de nature, puis cette nature qui reprenait ses droits dans les villes. Enfin, il y a des choses étonnantes qui se sont passées. Mais malgré tout, tellement de gens en ont souffert.
Bon, on va dépoussiérer des cinémas d'ici mercredi, en tous les cas, remettre tout en place. Vous allez humer, vous, justement, cette ambiance-là dans les prochains jours. Vous avez prévu d'aller voir un film, de voir les spectateurs, les fauteuils, tout
alors,
ça.
J'ai plusieurs projets. Je vais aller boire une bonne bière sur une terrasse. Je vais aller voir Drunk, parce que ça va avec la bière. Et alors, un truc totalement futile, mais j'ai envie d'une robe, voilà.
Ah ouais.
Bah oui, j'ai envie d'une robe, donc je vais aller m'acheter une robe aussi.
On peut l'entendre. Vous êtes à l'affiche donc de L'Étreinte, ça sort mercredi, je le disais, c'est un long métrage dont vous tenez le personnage central, celui d'une femme qui se prénomme dans le long métrage Margot, qui a perdu son mari, qui se retrouve seule et qui doit en fait se reconstruire en fait.
Ouais.
Attaquer à zéro un peu. Hein.
Tout recommencer. C'est un peu, effectivement, une sensation qu'on peut avoir quand on est en couple depuis longtemps, quand on quitte, quand on est quitté ou quand on perd quelqu'un de cher. Il y a comme une sorte de bulle dans laquelle on était qui éclate et on se retrouve tout nu devant la réalité et effectivement, on doit repartir. Sauf que évidemment qu'on repart pas de la même façon à 20, à 30, à 40 et à 50 ans. Donc là, et en même temps, elle va sortir de cette bulle avec une sorte de maladresse, de naïveté, mais d'audace folle aussi. Elle va se mettre dans des situations assez rocambolesques. Et puis, il y a quand même y a un parcours de, comment dire, de réappropriation d'elle-même. Alors, ça passera par le corps, souvent. Ça passera par des moyens de communication qui sont Tinder, qui sont des... Voilà. Et elle va se battre. Elle va se battre pour vivre. Elle va se battre pour se sentir vivante.
Alors ?
Quoi ?
Eh ben, t'as rencontré personne ?
Non. Enfin, écoute, peut-être je suis un peu trop vieille pour rencontrer des gens.
Mais non. Mais non, t'es super. On peut pas s'empêcher de... d'aimer. Tu couches encore avec ton mari ?
Non mais oh, ça va pas, non ?
Quoi ?
Ben, je sais pas, c'est indiscret.
Non.
On était ensemble depuis très longtemps.
Combien de temps ?
Je me suis mariée, j'avais 20 ans.
Ouais, donc tu couchais plus trop avec lui. Ça veut dire que t'as pas fait l'amour depuis quand ?
Arrête.
On n'aura pas la réponse. Hein. Pas franchement. Ouais, c'est un échange avec, un plus jeune, Vincent De Dienne.
Avec Vincent De Dienne, qui n'est pas si jeune que ça non plus. Il ne faut pas exagérer. Non. Il a 34 ans, Vincent, donc on va se calmer. Mais c'est une très jolie rencontre. C'est-à-dire que lui a repris ses études très tard aussi. Elle reprend ses études et ils vont se rencontrer à la fac. Et une sorte de coup de foudre amical comme ça qui va se créer entre les deux. Et ils ont tous les deux vécu un deuil, ils sont tous les deux un peu comme ça entre deux mondes. Et ils vont s'accrocher l'un à l'autre de façon très jolie, ils vont s'accompagner pendant le film.
Mmh. Le rapport au corps qui est central dans sa reconstruction, hein, Margot justement, elle n'a pas fait l'amour depuis un moment, on l'a entendu. Elle a bien du mal à s'offrir aux hommes qu'elle rencontre. Il y a un prof, elle se lance un peu sur les sites spécialisés. C'est le plus dur pour elle, ça.
Alors, elle ne pourra pas faire l'amour avec celui avec qui se dessine une histoire d'amour. Et elle va s'éclater littéralement avec un homme, Yannick Chouara, joué par Yannick Chouara, qui est un homme qu'elle va rencontrer sur Tinder. Et elle va lui demander beaucoup trop, beaucoup trop. Donc le mettre dans une situation assez embarrassante en le faisant jouer du trombone, en faisant... Enfin bref, voilà.
Il faut voir. Vous diriez quoi ? Qu'elle retrouve la liberté ?
Je dirais qu'elle est libre. Que cette liberté, elle l'a fait se confronter à des choses assez dangereuses. Même, on va pas tout raconter, mais il y aura des moments où elle se confrontera vraiment à des choses extrêmement dangereuses. Libre, oui, parce qu'elle a pas d'enfants. Libre parce qu'elle n'a pas d'attache, elle a pas de famille. Donc elle et en même temps, c'est pas une victime de la solitude. Mmh. Mais il y a une forme de solitude, mais elle n'en est pas victime parce qu'elle va aller à la rencontre des gens. Elle va petit personnage comme ça, assez audacieux.
Ah, c'est-à-dire qu'elle est à la fois mélancolique et à la fois active.
Oui, c'est vrai. Hein, oui, mais je connais bien ce sentiment-là.
C'est un peu vous, non ? Il y a un peu de vous.
Je connais bien ce sentiment-là.
Le réalisateur disait justement que vous colliez parfaitement à ce personnage-là.
Oui, alors qu'il ne l'a pas du tout écrit pour moi et qu'il a même pensé à d'autres actrices.
C'était un premier film pour lui.
C'est un premier film pour Ludovic Bergerie.
Et ça vous donne envie, ça, d'aller sur une première ?
Mais c'est-à-dire que j'étais quand même très, très étonnée. Très étonnée qu'un jeune metteur en scène sache à ce point-là et fasse preuve d'autorité, une autorité, un prisme. Il mettait la caméra dans un endroit, pas ailleurs. Il y avait une forme d'autorité très belle, pas quand je dis autorité, c'est pas négatif du tout, hein, mais j'ai tout de suite su que j'étais en train de faire un très joli film.
Et quand on est une actrice comme vous qui a un tel parcours, on n'a pas peur justement d'aller sur une première, c'est-à-dire d'un premier film.
Alors quand on est une actrice qui a 35-40 ans, on n'a plus peur de rien, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est joli. On n'a plus peur de rien, on a envie de tout. On est curieux de tout, donc les premiers films, donc quelquefois même des courts-métrages, quelquefois. Moi, ça m'amuse, j'ai plus rien à perdre, j'ai tout à gagner.
Vous êtes laissé guider ? Vous êtes abandonné ?
Totalement.
Totalement.
C'est là où je disais, Ludovic Bergerie n'est pas quelqu'un qu'on peut dominer, donc c'est quelqu'un qui vous domine avec sa mise en scène, avec sa façon de vous guider, la direction d'acteur qui est très important aussi. Et donc, je me suis... totalement. Alors j'ai fait 10 ans de théâtre et je suis revenue au cinéma avec Jeanne Balibar dans un premier temps et puis ensuite avec Ludovic Bergerie. Et j'ai compris que j'arriverais à m'abandonner comme jamais auparavant. Et c'est peut-être ce que je lui ai offert de mieux.
Mmh. C'est quoi ? C'est la maturité ça ? Professionnelle j'entends ?
Maturité, bah oui, c'est l'âge, disons-le. C'est joli parce qu'en fait on vieillit et puis on lâche des choses et puis ce que je disais, on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner.
10 ans de théâtre et donc revenir au cinéma comme ça, est-ce que c'est un vrai plaisir du coup ?
Oui, parce qu'on a abandonné beaucoup de choses sur de mauvaises choses, de choses encombrantes, de soucis physiques, d'image, de je ne sais quoi. Enfin, pas d'image, j'ai jamais été encombrée par mon image, mais il y a quelque chose qui s'est... Alors, est-ce que c'est le côté très tellurique du théâtre ? Est-ce que c'est le fait d'avoir vraiment les pieds plantés sur scène devant la cour d'honneur, par exemple, 2500 personnes quand même ? Donc, il y a une sorte de stabilité physique qui s'est mis en marche il y a 10 ans, pendant 10 ans, qui crée quelque chose d'autre. Ça n'empêche pas la fragilité du personnage, mais abandon, c'était le mot juste au tout départ.
L'étreinte, c'est un joli mot, c'est un joli titre.
En ce moment, Dieu sait si. Alors vous me demandiez si ça m'avait manqué le cinéma, le théâtre, oui, les cafés, oui, mais étreindre les gens qu'on aime, pas la bise, vraiment étreindre, prendre dans ses bras les gens qu'on aime sans avoir peur que l'autre ne soit pas. L'autre était devenu un danger. La bouche de l'autre était devenue un danger et l'autre était devenu un danger. Donc c'est pas encore résolu, mais étreindre, c'est une chose qui m'a beaucoup manqué.
Et vous pensez qu'on y reviendra ?
Pas tout de suite, je pense. Je pense que cette méfiance de l'autre, ces masques, cette distance sociale, je pense qu'elle est encore là pour un certain temps. Voilà.
Patience. Merci d'être passé par RTL ce soir. C'est un plaisir, Emmanuel Béard, donc au cinéma, enfin, mercredi prochain. Avec L'Étreinte, c'est Ludovic Bergeret, le réalisateur. Il y a Vincent Dodienne, notamment, à vos côtés, mais plein d'autres aussi qui sont vraiment très, très bien. Merci d'être passé par RTL ce soir. À très bientôt, Emmanuel Béard. Dans un instant, c'est Éric Brunet et sa liberté d'expression. À tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
Éric Brunet au parloir le vendredi dans RTL Soir. Pour vos temps forts de la semaine, Éric, bonsoir à vous.
Bonsoir Stéphane.
Ça débute par lundi avec le 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand.
Et oui, politiques et journalistes sont bousculés pour évoquer les années Mitterrand. On a dit régulièrement d'ailleurs que grâce à François Mitterrand, l'homosexualité avait été dépénalisée en France. Ben c'est faux. L'homosexualité a officiellement été dépénalisée sous la Révolution française. On parlait alors de crime de sodomie et la dernière exécution d'homosexuels date de 1750. Un peu d'histoire. Pendant 150 ans, on n'a touché à rien. Et puis, sous le régime de Vichy, sous prétexte de protéger l'enfance, on a décidé de modifier la majorité sexuelle pour les relations homosexuelles. Elle a été fixée à 21 ans. Et à partir de ce moment-là, il y a eu deux majorités sexuelles différentes, 15 ans. Pour les hétérosexuels, 21 ans pour les homosexuels. En 1974, Giscard arrive. Il baisse l'âge de la majorité. Ça passe donc à 18 ans pour les homosexuels et toujours 15 ans pour les hétérosexuels. En 1982, quand Mitterrand est là, bien évidemment, la gauche abaisse l'âge de la majorité sexuelle pour les homosexuels de 18 ans à 15 ans. Mais ça n'a rien à voir avec la dépénalisation. Il y a toujours eu, bien sûr, des comportements homophobes en France. Il y en a encore aujourd'hui. Mais il n'y a pas eu depuis 250 ans de répression étatique contre les homosexuels. La réalité, c'est que sous l'Ancien Régime, en France, les relations entre homosexuels étaient assez tolérées. À la cour de Louis XIV, Lully, le musicien, a pu vivre son homosexualité sans être inquiété. Et puis plus tard, Gide, Cocteau n'ont pas attendu l'élection de Mitterrand pour revendiquer leur homosexualité. Comparons avec nos voisins. En Angleterre, on connaît l'histoire d'Oscar Wilde, qui a été condamné à 2 ans de travaux forcés pour homosexualité. En Allemagne, bien après les nazis, eh bien les homosexuels ont continué à être persécutés par les autorités ouest-allemandes jusque dans les années 70. Rappelons enfin que l'homosexualité est encore interdite dans 69 pays aujourd'hui. Dans 11 pays, elle est encore passible de la peine de mort. Figure dans cette liste certains de grands alliés diplomatiques de la France.
Autre sujet qui concerne la politique d'aujourd'hui, Éric, ce sont les dernières nouvelles d'Alsace qui faisaient état de tensions au sein des Républicains dans la région Grand Est.
Eh oui, Jean Rottner, président de la région Grand Est, a décidé d'écarter Nadine Morano de la liste départementale en Meurthe-et-Moselle. Il la juge trop à droite. Refuser l'investiture de Nadine Morano, qui reste une des figures les plus emblématiques de la Sarkozy, est un mauvais signal envoyé à l'électorat de droite et en particulier au milieu populaire. Depuis l'échec de Laurent Wauquiez, une partie importante des cadres de LR cherche désormais à abandonner la droite traditionnelle pour se rapprocher du centre. Cette tentation du centre, elle est loin d'être nouvelle. En 75, Jacques Chirac déclarait déjà au parti gaulliste « Rien ne serait pire que la tentation de nous placer à droite ». Vous imaginez ? Et 3 ans plus tard, Chirac fixait au RPR perd l'objectif d'être un parti travailliste à la française. Eh bien, en courant après le centre, il me semble que la droite française risque de rater un moment historique. Jamais les Français ne se sont dit autant pas droite. Selon une étude récente, 38% des Français se disent à droite aujourd'hui, contre seulement 24% à gauche, et c'est inédit.
La politique encore, c'était mardi. Stanislas Guérini a annoncé que La République En Marche allait retirer l'investiture à une candidate voilée pour les élections départementales de ce mois de juin-là.
Bah oui, un candidat a le droit de se présenter avec un signe religieux, hein, officiellement. Et d'ailleurs, en 2010, le Conseil d'État avait validé la candidature d'une jeune femme voilée sous les couleurs du NPA d'Olivier Besancenot. Bon, au sein des élus La République En Marche, quand même, en ce moment, il y a débat, hein. D'ailleurs, la députée de l'Hérault, Coralie Dubost, soutient cette candidate voilée. Il faut reconnaître que la position du parti n'est pas très claire. On peut investir des candidates voilées, mais on n'aurait pas le droit de les mettre sur des affiches. Sur sa photo officielle, je tiens à dire, sur le site de l'Assemblée nationale, eh bien, la députée LAREM de Mayotte, Ramlati Ali, porte un voile. Et depuis longtemps, le principe de laïcité ne s'applique pas aux élus. Voilà, le parti de Christine Boutin, par exemple, s'appelait Parti chrétien-démocrate. À l'Assemblée, la députée Valérie Boyer arbore une grande croix. Il y a encore 60 ans, l'abbé Pierre siégeait en soutane dans les rangs du MRP. Et qui se souvient du chanoine Kir ? Celui-là, il est formidable. Le prêtre qui fut élu député-maire de Dijon jusqu'en 1968. C'est lui qui avait rétorqué à l'Assemblée à un élu communiste qui contestait l'existence de Dieu, « Vous n'avez jamais vu mon cul ?» Et pourtant, il existe. Eh bien, à mon avis, le vrai débat, c'est pas la laïcité. C'est que finalement, le voile chez nous est perçu aujourd'hui comme contraire au principe d'assimilation, un principe résumé par le proverbe « À Rome, fais comme les Romains ».
Et puis, incontournable temps fort de la semaine, Éric Brunet, c'est la mort du tueur en série Michel Fourniret.
L'ogre des Ardennes restera l'un des pires tueurs en série et prédateurs sexuels qu'ait connu la France. Un psychopathe organisé, machiavélique, qui repérait parfois ses victimes plusieurs semaines à l'avance. Mais le plus sidérant dans son cas, c'est que durant tout son parcours criminel, il a bénéficié de la complicité de sa femme, Monique Olivier. Une femme au physique passe-partout, mais à l'intelligence supérieure, qui a joué un rôle crucial dans tous les meurtres. Les avocats des parties civiles parlent même de meurtres commis à quatre mains. Monique Olivier entre en contact avec Fourniret en 1986. Elle a alors 38 ans. Elle répond à une petite annonce de Fourniret parue dans le Pèlerin, grand journal catholique. Pendant un an et demi, ils échangent plus de 230 lettres. Elle l'appelle mon fauve. Lui la surnomme ma mésange. Fourniret, qui n'a alors jamais tué, lui confie son désir d'enlever de très jeunes filles pour percer le mystère de la virginité. Didier Seban, d'ailleurs, qui est l'avocat des parents d'Estelle Mouzin, expliquera, c'est elle le deus ex machina de Fourniret, c'est elle qui a fait ce qu'il est devenu. En 1987, le couple commet son premier crime à Auxerre. Et la victime est une collégienne, Isabelle Laville. Alors qu'elle est enceinte d'un enfant, Monique Olivier joue le rôle d'appât. Elle fait monter l'adolescente dans la voiture, aide à la droguer et va jusqu'à stimuler sexuellement son mari pour le viol. Elle aidera enfin Fourniret à jeter le cadavre dans un puits. Ensemble, ils surnomment leurs victimes, c'est assez fou, hein, les MSP, ça veut dire les membranes sur pattes. Monique Olivier est un personnage diabolique mais fascinant. Elle est aujourd'hui âgée de 72 ans, peut-être parlera-t-elle. Ce que tout le monde espère, ce sont des révélations qui permettraient de retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin.
Michel Fourniret qui sera au cœur de votre émission dimanche, Eric, avec vos invités, vos débatteurs. 13h, 14h, où va la France ?
Oui, avec Jean-Alphonse Richard.
En plus, 18h57, vous restez bien là dans un instant. C'est toute l'actualité, la suite de RTL Soir ensemble jusqu'à 20h. A tout de suite.
RTL Soir.
Merci de nous rejoindre, nous sommes aux portes de 19h dans RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et c'est Alexandre de Saint-Aignan qui m'accompagne pour toute l'actualité de ce vendredi 14 mai. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
À la une, une petite fille de 5 ans gravement brûlée par un produit chimique dans son école maternelle.
La chaise sur laquelle elle s'est assise avait reçu des gouttes d'un désinfectant particulièrement corrosif. La fillette a dû subir une greffe de peau. 20 millions de Français vaccinés à la mi-mai. L'objectif sera atteint demain, comme prévu, affirme le ministre de la Santé. L'attention tensions toujours très vives au Proche-Orient. En ce jour de prière pour les musulmans, la colère gagne les pays voisins d'Israël. L'Empire du Milieu à la conquête de la planète rouge. Et puis un nouveau maillot du PSG, beaucoup trop bleu au goût des supporters.
À la fin du journal, la météo complète avec Clair de Lorme, bien sûr, demain, du gris et de la pluie. Et puis on va défaire le monde à partir de 19h15.
RTL Soir.
Qui aurait pu imaginer que s'asseoir sur une chaise aurait des conséquences aussi graves? À Rueil-Malmaison, une fillette de 5 ans a été gravement brûlée au niveau des fesses. Des travaux venaient d'avoir lieu dans son école maternelle et quelques gouttes d'un produit désinfectant extrêmement corrosif se sont retrouvées sur une chaise, Nicolas Burnand.
Oui, le 29 avril dernier, le jour de la rentrée, cette fillette mouille ses habits à la cantine. Un animateur l'emmène dans une salle du centre de loisirs pour se changer. C'est là que se déroule l'accident, explique Perrine Legrand, la présidente de l'association des parents d'élèves de Rueil-Malmaison.
Il semblerait que cette petite fille se soit renversée de l'eau. Elle a été changée dans un local. Elle s'est assise sur une chaise. Et suite à cela, une fois qu'elle est rentrée chez elle, le soir, elle avait des brûlures sur ses fesses.
Les blessures sont graves, l'enfant est hospitalisé et doit subir une greffe de la peau. Selon les premières constatations, dans ce local, des agents de nettoyage ont dilué un produit hautement corrosif dans de l'eau. Quelques gouttes sont alors tombées sur la chaise avant de sécher.
La brûlure est due à un produit chimique, serait un désinfectant. Il a été sorti sous forme diluée, utilisé pour désinfecter l'école pendant la crise sanitaire. Comment un produit aussi dangereux, même sous forme concentrée, peut se retrouver au sein d'une école? Parce qu'un principe de précaution en termes de sécurité, c'est de substituer tout produit dangereux par un produit moins dangereux.
Contacté par RTL, le directeur général des services de la ville explique que ce produit n'aurait jamais dû se retrouver dans ce local et que les protocoles n'ont pas été respectés. Une enquête administrative a été ouverte.
Nicolas Burnand pour RTL.
Après le féminicide de Mérignac, le ministre de la Justice s'en visite aujourd'hui dans une plateforme d'assistance aux victimes de violences conjugales.
Il y a 10 jours, une mère de famille a été brûlée vive par son ex-mari violent et récidiviste près de Bordeaux. Quelques semaines plus tôt, elle avait pourtant porté plainte contre lui. Une série de défaillances pointées dans une mission d'inspection lancée par les ministères de la Justice et de l'Intérieur. À Mérignac, la victime n'a pas été protégée. Il existe pourtant plusieurs dispositifs, que ce soit le téléphone grave danger ou le bracelet anti-rapprochement. Cet après-midi, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a pu constater leur efficacité, Valentin Boisset.
Sur un écran du centre, les agents constatent un homme s'approche trop près de son ancienne victime. Il est ensuite géolocalisé.
On a toutes les informations, au moins de 10 secondes. La géolocalisation, numéro de téléphone et tout ce qui va.
Mais il est surtout contacté par les agents de ce centre car il pourrait constituer une menace pour sa victime.
Monsieur, vous êtes dans une zone qui est interdite. Vous quittez immédiatement ou j'appelle les forces de l'ordre. Là, vous sortez de la zone immédiatement. Je surveille, merci beaucoup.
Cet agent reçoit ici en moyenne une vingtaine d'alertes par jour.
J'ai vu que vous étiez bien ferme, vous avez bien fait.
Ouais, c'est notre devoir. On est obligé de procéder ainsi. D'ailleurs, ça a marché parce qu'il a fait demi-tour.
C'est top, formidable.
Le nombre d'alertes est aussi évocateur d'une année sur l'autre car avec le déploiement progressif du dispositif chaque année, elles sont de plus en plus nombreuses selon le chef du service.
En 2019, 18 000 alarmes. Oui. 2020, 28 000 alarmes. D'accord. Près de 10% qui ont nécessité la sollicitation des forces de l'ordre.
Par la même occasion, le ministre de la Justice a appelé les juges à ne jamais hésiter de déployer ce dispositif lorsque la situation l'exige.
Le reportage de Valentin Boisset pour RTL.
Demain, Alexandre, nous serons le 15 mai et 20 millions de Français auront reçu au moins une première dose de vaccin.
L'objectif fixé par le gouvernement sera atteint, c'est le ministre de la Santé qui l'affirme sur Twitter. Encore près de 600 000 vaccinations ont eu lieu aujourd'hui. Les injections se poursuivent pendant le week-end de l'Ascension. 3000 doses supplémentaires du vaccin Johnson ont par exemple été livrées dans les pharmacies bretonnes. L'avantage de ce vaccin, c'est qu'il ne nécessite qu'une seule injection. Problème, il est réservé aux plus de 55 ans. À Vannes, une pharmacienne a trouvé aujourd'hui seulement 5 candidats.
Nous nous sommes portés volontaires. On a actuellement dans notre réfrigérateur 300 doses d'AstraZeneca, 150 doses de Janssen et nous ne trouvons pas de patients éligibles pour se faire vacciner. Impossible de trouver des patients de plus de 55 ans qui veulent bien se faire vacciner par ces deux vaccins. Ils nous disent qu'ils ne veulent pas être vaccinés par ces marques, du fait de la mauvaise communication médiatique, à mon avis. C'est hallucinant. On ne sait plus comment exercer notre métier. Je vous avoue que les bras nous en tombent après tout ce déploiement d'énergie pour ça, quoi.
Que vont devenir les doses?
Je vais essayer de les délivrer aux médecins qu'on approvisionne habituellement aussi, mais je ne sais pas ce qu'il va en être vraiment.
Il n'est pas question de les jeter.
Ah, pour moi, non. Pour moi, non.
Des propos recueillis par Nicolas Bobby pour RTL. Les pharmaciens devraient bientôt pouvoir vacciner avec le Moderna, hein, cet équivalent au vaccin Pfizer-BioNTech, sans doute à compter du 24 mai prochain.
12 millions de Français profitent du pont de l'Ascension pour s'aérer, pour s'offrir quelques jours de pause, et parmi eux, 120 familles défavorisées.
Grâce au secours populaire, elles sont invitées dans plusieurs villages vacances à travers la France, notamment à Forges-les-Eaux, en Seine-Maritime. Esteban Pinel.
En voilà un accueil animalier qui sent bon les vacances.
Il y a eu un cochon, il était tout là-bas, des poules.
Et alors tu trouves que c'est comment ?
Bah bien.
Julie, la maman de cette fillette originaire d'Évreux, pas très loin d'ici, vient de garer l'auto. Enfin, la décompression après plusieurs mois assez tortueux.
Je travaille en restauration. Pendant 6 mois, j'ai fait un petit peu d'intérim, un petit peu beaucoup même. Je me suis débrouillée. Et là, je recommence donc le 19 avec l'ouverture des terrasses au niveau national.
Ces vacances du secours populaire sont précieuses car la crise met des bâtons dans les roues de cette maman au petit salaire.
C'est surtout qu'on ne peut pas prévoir, donc on ne peut pas bénéficier des promotions et se dire, bah tiens, on saute dessus parce que on n'est pas sûr de se faire rembourser. On a moins le droit à l'erreur, donc j'anticipe rien du tout et je ne réserve rien du tout.
Le droit aux vacances, encore plus salutaire pour Catherine Luffroy, responsable du secours populaire en Normandie.
Ce sont des gens qui vivent en HLM, donc de sortir, de pouvoir prendre les vélos, aller en randonnée, tout ça, c'est des moments de bonheur que les familles prennent et que l'on aime.
Vélo, château, rando, leur week-end ne fait que commencer à Forges-les-Eaux.
Voilà le reportage d'Esteban Pinel en Normandie pour RTL.
Alexandre de Saint-Aignan revient dans un instant dans RTL Soir pour la suite du journal avec des manifestations violentes dans les régions voisines d'Israël. On va vous expliquer que la colère enflamme désormais le Proche-Orient. A tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et Alexandre de Saint-Aignan à 19h08. Les affrontements ont fait désormais plus d'une centaine de morts entre Israël et le Hamas. Et Emmanuel Macron souligne aujourd'hui l'urgence d'un retour à la paix.
Le chef de l'État s'est entretenu tout à l'heure au téléphone avec le Premier ministre israélien, évoquant d'un côté le droit à se défendre face à la pluie de roquettes palestiniennes. Emmanuel Macron lui a également dit sa préoccupation au sujet des populations civiles à Gaza. Bonsoir Christophe Decroix.
Bonsoir.
Chef du service étranger de RTL, la colère gagne désormais les régions voisines.
Oui, les affrontements ont gagné la Cisjordanie. 10 Palestiniens ont été tués, plus de 150 manifestants blessés dans des heurts avec l'armée israélienne qui occupe cette région. Dans le même temps, Tsahal a amassé des chars tout le long de la frontière avec Gaza, l'enclave palestinienne densément peuplée. Les Israéliens visent notamment les réseaux de tunnels, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie se sont poursuivis toute la journée. De nombreux habitants ont dû fuir leurs maisons. On compte désormais plus de 122 morts et des centaines de blessés côté palestiniens et 9 morts côté israélien, ainsi que de nombreux blessés. C'est donc sur 3 fronts qu'ont lieu les affrontements dans les villes israéliennes mixtes, à Gaza et en Cisjordanie. Mais il y a eu aussi des accrochages à la frontière libanaise et des milliers de Jordaniens ont manifesté leur solidarité avec les Palestiniens. Cela laisse craindre une montée des tensions alors que c'est demain la journée de la Nakba, celle où les Palestiniens commémorent leur exil à la création de l'État israélien.
Les explications signées Christophe Decroix pour RTL. En France, une manifestation parisienne était prévue demain en soutien à la Palestine. La préfecture de police a réclamé son interdiction. Décision confirmée ce soir par le tribunal administratif. Les organisateurs vont faire appel devant le Conseil d'État, affirme leur avocat à RTL.
Mais on prend à présent un peu de hauteur puisqu'on aura bientôt peut-être un deuxième visiteur sur la planète Mars.
Alors que se trouve déjà sur place le rover de la NASA, Perseverance, un petit robot chinois doit se poser la nuit prochaine sur la planète rouge. Il a quitté la Terre en juillet dernier. Ce serait une première pour la Chine, Sophie Jousselin. Enfin, encore faut-il réussir à se poser, parce que pour l'instant, seuls les Américains ont réussi.
Oui, absolument. Zhurong, c'est le nom de ce rover, va devoir survivre aux fameuses 7 minutes de terreur. 7 minutes pendant lesquelles il va devoir passer de 28 000 km/h à moins de 5 pour se poser tout en douceur sur la planète rouge. Si tout se passe bien, il sera alors le deuxième rover en activité sur Mars. L'autre, vous l'avez dit, c'est Perseverance, le robot de la NASA. Antoine Meunier est le créateur du site La Chronique Spatiale.
Perseverance, c'est l'équivalent d'une Twingo. Zhurong, lui, il est plus petit, il fait 240 kilos. Si vous observez bien ces panneaux solaires, c'est un peu comme des petites ailes de papillon. Ce rover, il doit étudier la structure géologique de Mars, quel type de rochers, quel type de minéraux sont présents. Il va étudier le climat.
Alors Zhurong doit se poser dans Utopia Planitia, une zone que les Chinois ont minutieusement choisie pour l'atterrissage.
Les Chinois ont pris leur temps pour cartographier la planète Mars afin de déterminer un site d'atterrissage le plus propice possible. C'est un terrain qui est extrêmement plat, proche de l'équateur, pour que ce soit le plus propice notamment pour tout ce qui est télécommunication entre le rover et puis la Terre.
Et si tout se passe bien, Zhurong doit sillonner la planète rouge pendant au moins 3 mois.
On va suivre ça avec vous, Sophie Jousselin, pour RTL. Il doit atterrir à quelle heure cette nuit ?
1h11.
Voilà, c'est précis. Hein. C'est précis. Tout ça, il faut avoir des bons freins pour passer de 28 000 km/h à 5. Merci Sophie. Le foot, Paris Saint-Germain et le nouveau maillot qui fait hurler les supporters.
La fin du championnat approche. Les clubs préparent déjà la saison prochaine. Certains ont dévoilé leur futur maillot. C'est le cas du PSG. Bonsoir Nicolas Jean-Giraud.
Bonsoir.
Visuellement, c'est sûr, il y a du changement, sans non plus être totalement excentrique, mais ça passe mal chez les supporters parisiens.
Oui, une tunique domicile entièrement bleu avec des liserés blancs et rouges discrets sur les manches et sur le col. Les couleurs historiques sont là, mais c'est vrai, le dessin est totalement différent des bandes verticales imaginées par Daniel Echter dans les années 70. Julien, abonné au PSG depuis un quart de siècle, n'en veut pas du tout.
Tout le business qui est autour du foot n'a pas arrêté de tenter de s'attaquer à ses repères. Le maillot, c'est le symbole du club. On reconnaît la Juve au maillot rayé noir et blanc. On reconnaît le maillot de Paris aux bandes verticales. On ne peut pas accepter encore une fois que le business, que le marketing vienne marcher comme ça sur l'histoire et les valeurs du PSG.
L'évolution est normale et logique en revanche pour Samy, jeune supporter du club de la capitale.
Ce maillot respecte nos couleurs. Honnêtement, je pense que pour le club, mettre en place le même maillot domicile chaque saison, avec la même bande, exactement tout pareil, ça perdrait de l'attractivité. Les gens ne voudraient même plus l'acheter, je pense, puisque le PSG est maintenant une marque mondiale et cherche à toucher le maximum de public possible.
Contestation lancée sur les réseaux sociaux et même plus, selon Julien.
La seule arme des supporters est le boycott des maillots. Le seul moyen de pression qu'on a, c'est celui-là. Donc tous les produits jusqu'à nouvel ordre sont en boycott, au moins provisoire, pour le démarrage de l'année.
Une collection imaginée une nouvelle fois en collaboration avec la marque de basket Jordan. Le partenariat perdure et permet au PSG de vendre quasiment 1 million de maillots par an et donc d'appartenir sur ce point au top 4 mondial.
Nicolas Georgerot pour RTL. RTL Foot ce soir entre 20h et 22h. Exceptionnellement pas de Ligue 1. Tous les matchs de l'avant-dernière journée du championnat vont se jouer dimanche soir en simultané.
Merci Alexandre, on vous retrouve pile à 20h pour l'actualité. À tout à l'heure. Et l'appli RTL est à disposition bien sûr. Le temps demain, Claire Delorme, il fait pas beau.
Pas beau, c'est exactement le mot. Puisqu'on a une perturbation qui va arriver donc dès cette nuit par l'ouest. Et donc en matinée on va la retrouver du sud-ouest vers la région du nord et de l'est, avec en prime donc des pluies qui seront beaucoup plus modérées vers la Nouvelle-Aquitaine, le Massif central, mais aussi en direction des Alpes. Et puis donc dans l'après-midi, cette perturbation va rester essentiellement sur ces régions. Alors qu'à l'arrière, on aura un ciel de traîne plutôt actif, hein, de la Bretagne vers le bassin parisien, les Hauts-de-France. Donc quand je dis traîne active, ça veut dire qu'on aura de nombreux passages nuageux, hésitant avec quelques éclaircies, des nuages porteurs d'averses qui pourront même conduire à un coup de tonnerre pour les plus malchanceux, hein, pour ceux qui seront en dessous les éclairs. Et puis donc pour des conditions beaucoup plus calmes, beaucoup plus sèches, faudra vous rendre une fois de plus en Méditerranée, toutefois avec un ciel aux tonalités un petit peu plus laiteuses, avec des températures qui sont encore en dessous des normales de saison dignes d'un mois d'avril. En matinée, il faudra compter généralement entre 7 à 11 degrés, avec 8 degrés à Paris, il fera un petit peu plus doux en Méditerranée et les maximales dans l'après-midi seront de 23 degrés dans le sud-est, de 21 degrés près des Pyrénées et sinon de 13 à 18 degrés partout ailleurs.
Voilà le programme, et c'est pas terrible, et c'est comme ça pour plusieurs jours. Mmh. Sachez-le, merci Claire.
Avec plaisir.
Dans un instant, on défait le monde, c'est jusqu'à 20h, nous sommes vendredi soir avec Greg aux manettes, avec Laurent Tessier, avec Marie Mollet, avec Brice Dugénie, qui va peut-être arriver un jour en studio, peut-être, avec Cyprien Signé qui est déjà là.
Et nous, on va vous amener le soleil, en tout cas.
Ah, ouais.
Claire a dit pas beau, c'est peut-être pour ça qu'il est parti.
Ouais, peut-être. Ou pas. Allez, à tout de suite, tout en direct.
RTL Soir.